Chapitre 14. La traversée de la mer Rouge. Une situation sans issue. Ceux qui descendent sur la mer dans des navires qui font leur travail sur les grandes eaux, ceux-là voient les œuvres de l'Éternel et s'émerveillent dans les eaux profondes. Psaume 107, versets 23 et 24. Combien cela est vrai. Et néanmoins, comme nos cœurs lâches reculent devant ces grandes eaux, nous préférons les hauts fonds et par conséquent nous sommes privés de voir les œuvres et les merveilles de notre Dieu, car elles ne se voient et ne sont connues que dans les eaux profondes. C'est au jour de l'épreuve et des difficultés que l'âme fait quelque expérience du bonheur indicible qu'il y a à pouvoir compter sur Dieu. Ce n'est pas quand on glisse sur la surface d'un lac tranquille que la réalité de la présence du Maître est sentie, mais on en fait l'expérience quand la tempête mugit et que les flots menacent de couvrir l'embarcation. Le Seigneur ne nous offre pas la perspective d'un chemin exempt d'épreuves et de tribulations. Bien au contraire, il nous dit que nous rencontrerons les unes et les autres, mais il nous promet d'être avec nous au milieu de ces choses, et cela vaut infiniment mieux que d'en être exempt. Il vaut bien mieux jouir de la présence de Dieu dans l'épreuve que d'être exempt de l'épreuve sans faire cette précieuse expérience. Éprouver que le cœur de Dieu sympathise avec nous est bien plus doux que d'éprouver la puissance de sa main pour nous. La présence du Maître au milieu de ses fidèles serviteurs, pendant qu'ils passaient par la fournaise, était bien meilleure que n'aurait été la manifestation de sa puissance pour les en préserver. Daniel 3. Souvent, nous voudrions qu'il nous soit accordé de cheminer en avant sans épreuve, mais nous y perdrions beaucoup. Jamais la présence du Seigneur n'est aussi douce que dans les moments de grande difficulté. C'est ce qu'éprouvèrent les Israélites dans les circonstances qui sont rapportées dans ce chapitre. Ils sont là, devant une difficulté insurmontable. Ils sont appelés à faire leur travail sur les grandes eaux. Toute leur sagesse est venue à néant. Psaume 107, verset 27. Le Pharaon, se repentant de les avoir laissés sortir de son pays, se décide à faire un effort désespéré pour les y ramener. Et il attela son char et prit son peuple avec lui. Et il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte et des capitaines sur tous. Et le Pharaon s'approcha, et les fils d'Israël levèrent leurs yeux, et voici, les Égyptiens marchaient après eux. Et les fils d'Israël eurent une grande peur et crièrent à l'Éternel. Versets 6 à 10. Ils étaient profondément mis à l'épreuve. Tout effort humain devenait inutile. La mer était devant eux. Derrière eux, les armées du Pharaon, et autour d'eux, les montagnes, et tout ceci était permis et ordonné de Dieu. Dieu avait choisi le terrain où Israël devait camper, devant Pi Hahiroth, entre Migdol et la mer, devant Baal Tsephon. Et maintenant, c'est lui qui permettait que le Pharaon les atteigne. Pourquoi cela? Précisément pour se manifester lui-même dans le salut de son peuple, et dans la défaite complète des ennemis de ce peuple. Il a divisé en deux la mer Rouge, car sa bonté demeura toujours, et a fait passer Israël au milieu d'elle, car sa bonté demeura toujours, et a précipité le Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa bonté demeura toujours. Psaume 136, versets 13 à 15. Le but de Dieu. Il n'y a pas dans toutes les étapes du voyage des rachetés dans le désert une seule position dont les limites n'aient pas été soigneusement tracées par la main de Dieu. La portée spéciale et l'influence particulière de chacune de ces positions sont calculées avec soin. Les Pi Hahiroth et les Migdol sont tous disposés en fonction de la condition morale de ceux que Dieu conduit à travers les détours et les labyrinthes du désert, et de façon aussi à manifester le vrai caractère de Dieu. L'incrédulité suggère souvent la question: pourquoi en est-il ainsi? Dieu le sait. Et sans aucun doute, il en révélera la raison toutes les fois que cette révélation pourra contribuer à sa gloire et au bien de son peuple. Ne nous demandons-nous pas bien souvent pourquoi et dans quel but nous sommes placés dans telle ou telle circonstance? Ne nous tourmentons-nous pas souvent pour savoir la raison pour laquelle nous sommes exposés à telle ou telle épreuve? Combien ne ferions-nous pas mieux de courber la tête dans une humble soumission et de dire: tout va bien, et tout ira bien. Quand c'est Dieu qui a fixé la place où nous sommes, nous pouvons être sûrs qu'elle est choisie avec sagesse et qu'elle est salutaire. Et même si nous l'avons follement et volontairement choisie nous-mêmes, Dieu, dans sa miséricorde, domine notre folie et fait que les circonstances dans lesquelles nous nous sommes placés travaillent à notre bien spirituel. C'est quand les enfants de Dieu se trouvent dans les plus grands embarras et les plus grandes difficultés qu'ils ont le privilège de voir les plus belles manifestations du caractère et de l'activité de Dieu. Et pour cette raison, il les place souvent dans l'épreuve afin de se manifester lui-même d'une manière d'autant plus évidente. Il aurait pu conduire Israël par derrière la mer Rouge et le faire arriver au-delà de l'atteinte de l'armée du Pharaon avant même que celui-ci ait quitté l'Égypte. Mais cette voie n'aurait pas glorifié aussi pleinement son nom, ni confondu d'une manière aussi complète l'ennemi dans lequel il voulait se glorifier. Verset 17. Nous perdons trop fréquemment de vue cette grande vérité, et la conséquence en est qu'au temps de l'épreuve, le cœur nous manque. Si nous pouvions n'envisager une crise difficile que comme une occasion pour Dieu de faire paraître en notre faveur la pleine suffisance de sa grâce, nos âmes conserveraient leur équilibre et nous pourrions glorifier Dieu même au milieu des plus grandes épreuves. L'incrédulité des Israélites. Le langage des Israélites dans l'occasion qui nous occupe peut nous étonner et nous sembler difficile à expliquer. Mais plus nous connaîtrons nos mauvais cœurs incrédules, plus aussi nous verrons combien est grande la ressemblance qu'il y a entre nous et ce peuple. Il semble qu'ils avaient oublié la manifestation récente de la puissance divine en leur faveur. Ils avaient vu la puissance de l'Égypte abattue sous la verge de l'Éternel. Ils avaient vu sa main rompre la chaîne de fer de l'esclavage égyptien et éteindre la fournaise. Ils avaient vu toutes ces choses, et néanmoins, dès qu'un nuage obscur apparaît à leur horizon, leur confiance se perd, le cœur leur manque, ils donnent libre cours à leurs murmures incrédules. Ils s'écrient : Est-ce parce qu'il n'y avait pas de sépulcre en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert ? Que nous as-tu fait de nous avoir fait sortir d'Égypte ? Il nous vaut mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Versets 11 et 12. L'incrédulité ne peut qu'errer toujours. Elle ne discerne rien des voies de Dieu. Cette incrédulité est la même dans tous les temps. C'est elle qui conduisit David à dire, dans un jour de découragement, « Maintenant je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de bon pour moi que de me sauver en hâte dans le pays des Philistins. » 1 Samuel 27, verset 1. Et comment les choses tournèrent-elles? Saül fut tué en la montagne de Gilboa, et le trône de David fut établi pour toujours. C'est l'incrédulité encore qui, dans un moment d'abattement profond, porte à Élie le Tishbite à s'enfuir pour sauver sa vie de devant les menaces furieuses de Jézabel. Et qu'arriva-t-il? Jézabel fut brisée sur le pavé, et Élie fut enlevé au ciel dans un chariot de feu. Il en fut de même des enfants d'Israël au tout premier moment de l'épreuve. Ils se laissèrent aller à penser que l'Éternel n'avait pris tant de peine pour les délivrer de l'Égypte que dans le but de les faire mourir au désert. Ils s'imaginèrent que s'ils avaient été préservés de la mort par le sang de l'agneau pascal, c'était afin qu'ils soient ensevelis dans le désert. Ainsi résonne toujours l'incrédulité. Elle nous porte à interpréter Dieu en présence de la difficulté, au lieu d'interpréter la difficulté en présence de Dieu. La foi se place au-delà de la difficulté, et là, elle trouve Dieu dans toute sa fidélité, son amour et sa puissance. Le croyant a le privilège d'être toujours dans la présence de Dieu. Il a été introduit par le sang du Seigneur Jésus. Cette place, il ne peut jamais la perdre, puisque Christ, celui qui le représente devant Dieu, l'occupe pour lui. Mais, bien qu'il ne puisse pas perdre la chose elle-même, il peut en perdre la jouissance, l'expérience et la puissance. Toutes les fois que ses difficultés se placent entre son cœur et le Seigneur, il ne jouit évidemment pas de la présence du Seigneur, mais il souffre en face de ses difficultés. Tout comme quand un nuage se place entre nous et le soleil, il nous prive pour un moment de la jouissance de ses rayons. Le nuage n'empêche pas le soleil de luire, il ne fait que nous empêcher d'en jouir. Ainsi en est-il quand nous acceptons que les épreuves et les difficultés de la vie dérobent à nos âmes les brillants rayons de la face de notre Père qui reluit d'un éclat invariable en la personne de Jésus-Christ. Il n'y a point de difficulté trop grande pour notre Dieu. Au contraire, plus la difficulté est grande, plus il a l'occasion d'intervenir selon son propre caractère, comme le Dieu bon et tout-puissant. Sans doute la position d'Israël, telle qu'elle est décrite dans les premiers versets de ce chapitre, était une position qui mettait profondément à l'épreuve, mais le Maître du ciel et de la terre était là, et les enfants d'Israël n'avaient qu'à se reposer sur lui. Comme nous défaillons promptement, cher lecteur, quand arrive l'épreuve. Les sentiments dont nous parlons sont très beaux, et il est facile d'en parler, mais la chose importante, c'est de les mettre en pratique quand vient l'occasion. C'est en les pratiquant qu'on en éprouve réellement et la puissance et la félicité. Si quelqu'un veut faire la volonté de celui qui m'a envoyé, dit Jésus, il connaîtra de la doctrine, si elle est de Dieu. Jean 7, verset 17. Voyez la délivrance de l'Éternel. Et Moïse dit au peuple, « Ne craignez point, tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel, qu'il opérera pour vous aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus à jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquille. » Versets 13 et 14. Demeurez tranquille. C'est là le premier acte de la foi en présence de l'épreuve. Pour l'homme naturel, c'est chose impossible. Tous ceux qui connaissent quelque peu l'agitation du cœur humain dans les épreuves et dans les difficultés qu'on anticipe peuvent se faire une idée de ce qu'implique le fait de demeurer tranquille. L'homme veut faire quelque chose. Il courra ici et là. Il voudrait avoir une part dans l'œuvre. Et bien qu'il essaie de justifier ses actes en leur donnant le titre d'emploi légitime des moyens, ce qu'il fait n'est néanmoins que de l'incrédulité, qui exclut toujours Dieu. L'incrédulité, d'abord, crée ou grandit les difficultés, puis elle fait appel pour les enlever à nos propres efforts et à notre remuante et infructueuse activité, qui ne font en réalité que soulever autour de nous une poussière qui nous empêche de voir le salut de Dieu. La foi, au contraire, élève l'âme au-dessus des difficultés et la fait regarder directement à Dieu lui-même. Elle nous rend ainsi capables de demeurer tranquilles. Nous ne gagnons rien par nos efforts, notre agitation et notre inquiétude. Tu ne peux faire blanc ou noir un cheveu, ni ajouter une coudée à ta taille. Matthieu 5, verset 36 et 6, verset 27. Qu'est-ce qu'Israël aurait pu faire devant la mer Rouge? Pouvait-il la mettre à sec? Pouvait-il aplanir les montagnes ou anéantir les armées de l'Égypte? Ils étaient là, environnés d'une barrière impénétrable de difficultés, à la vue de laquelle ils ne pouvaient que trembler et sentir leur entière impuissance. Mais c'était là, précisément, pour Dieu, le moment d'agir. Demeurez tranquille. Il en est ainsi pour nous dans chacune des phases de notre histoire. Il en est ainsi pour nous, comme pécheurs, alors que, sous le sentiment de malaise que donne le péché pesant sur la conscience, nous sommes tentés d'avoir recours à nos propres actes pour obtenir du soulagement. C'est alors que, réellement, nous devons demeurer tranquilles, afin de voir la délivrance de Dieu. Car qu'aurions-nous pu faire dans l'œuvre de l'expiation pour le péché? Aurions-nous pu être avec le Fils de Dieu sur la croix? Aurions-nous pu descendre avec lui dans le puits de la destruction et le bourbier fangeux, psaume 40, verset 2, pour nous frayer ensuite un passage jusque sur le roc de la résurrection? Dieu est seul dans la rédemption, et quant à nous, nous n'avons qu'à demeurer tranquilles et à voir la délivrance de Dieu. Le fait même que c'est la délivrance de Dieu prouve que l'homme n'a rien à y faire. Le principe n'est pas différent lorsque nous sommes entrés dans la carrière chrétienne. Dans chaque nouvelle difficulté, qu'elle soit grande ou petite, notre sagesse est de demeurer tranquille, de renoncer à nos propres œuvres et d'attendre la délivrance de Dieu. Nous ne devons pas non plus faire de distinction entre les difficultés, penser qu'il y en ait de légères auxquelles nous puissions faire face nous-mêmes, tandis que dans d'autres, la main de Dieu est nécessaire. Nous sommes tout aussi incapables de changer la couleur d'un cheveu que de transporter une montagne, de créer un brin d'herbe que de créer un monde. Toutes ces choses sont semblables pour nous, et elles sont toutes semblables pour Dieu. Nous n'avons donc qu'à nous abandonner, avec une foi confiante, aux mains de celui qui s'abaisse pour regarder dans les cieux et sur la terre. Psaume 113, verset 6. Nous nous trouvons quelquefois portés d'une manière triomphante à travers les plus grandes épreuves, tandis que nous perdons courage dans les petites. Pourquoi? Parce que dans les grandes épreuves, nous sommes contraints de rejeter notre fardeau sur le Seigneur, tandis que dans les moins grandes, nous essayons follement de le porter nous-mêmes. L'Éternel combattra pour vous. L'Éternel combattra pour vous, et vous, vous demeurerez tranquille. Verset 14. Précieuse assurance. Combien n'est-elle pas propre à tranquilliser l'esprit en présence des difficultés les plus sérieuses et des dangers les plus grands? Le Seigneur se place non seulement entre nous et nos péchés, mais encore entre nous et les circonstances au milieu desquelles nous nous trouvons. Dans le premier cas, il nous donne la paix de la conscience, dans le second, la paix du cœur. Ce sont deux choses parfaitement distinctes. Beaucoup de chrétiens ont la paix de la conscience sans avoir la paix du cœur. Par la foi, ils ont vu Christ dans l'efficacité de son sang entre eux et tous leurs péchés. Mais ils ne savent pas avec la même simplicité voir Christ avec sa sagesse, son amour et sa puissance entre eux et leurs circonstances. Il en résulte une grave lacune dans la condition pratique de leur âme, aussi bien que dans le caractère de leur témoignage. Car rien ne contribue plus à glorifier le nom de Jésus que ce repos tranquille de l'esprit qui découle de ce que nous avons le Seigneur entre nous et tout ce qui pourrait être un sujet d'inquiétude pour nos cœurs. Tu garderas dans une paix parfaite l'esprit qui s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Mais, demandera-t-on, ne devons-nous rien faire? Une autre question pourra servir de réponse. Que pouvons-nous faire? Tous ceux qui se connaissent réellement répondront « rien ». Si donc nous ne pouvons rien faire, ne faisons-nous pas mieux de demeurer tranquilles? Si le Seigneur agit pour nous, ne faisons-nous pas mieux de nous tenir en arrière? Allons-nous courir devant lui et nous ingérer dans sa sphère d'action? Qui songerait à apporter une chandelle allumée pour ajouter de l'éclat à la lumière du soleil en plein midi? Parle au fils d'Israël et qu'il marche. Cependant, quand Dieu ouvre un chemin, la foi peut y marcher. Et l'Éternel dit à Moïse, « Que cries-tu à moi ? Parle au fils d'Israël et qu'il marche. » Verset 15. Ce n'est que quand nous avons appris à demeurer tranquilles que nous pouvons marcher effectivement en avant. Autrement, tous nos efforts n'auront d'autre résultat que de manifester notre folie et notre faiblesse. La vraie sagesse consiste donc à demeurer tranquille, quelle que soit la difficulté ou la perplexité dans laquelle on se trouve, et à s'attendre uniquement à Dieu. Il nous ouvrira certainement un chemin, et alors nous pourrons marcher paisiblement et heureusement. Il n'y a pas d'incertitude quand c'est Dieu qui nous ouvre un chemin, mais tout chemin de notre propre invention est un chemin de doute et d'hésitation. L'homme irrégénéré peut aller de l'avant dans sa propre voie avec une apparence de fermeté et de décision, mais l'un des caractères distinctifs du croyant enseigné de Dieu, c'est la défiance de soi-même avec la confiance en Dieu. C'est quand nos yeux ont vu la délivrance de l'Éternel que nous pouvons marcher dans cette voie. Mais nous ne pouvons jamais la voir distinctement avant d'avoir été convaincus de l'inutilité de nos propres efforts. Il y a une force et une beauté particulière dans l'expression « voyez la délivrance de l'Éternel ». Le fait même que nous sommes appelés à voir la délivrance de l'Éternel prouve que celle-ci est complète. Le salut est une œuvre que Dieu a opérée et révélée pour que nous la voyions et que nous en jouissions. Il n'est pas en partie l'œuvre de Dieu et en partie celle de l'homme, car dans ce cas, il ne pourrait pas être appelé le salut de Dieu. Voir Luc 3, verset 6, Acte 28, verset 28. Pour être le salut de Dieu, il faut qu'il soit dépouillé de tout ce qui est de l'homme. Le seul résultat possible des efforts de l'homme est d'obscurcir la vue du salut de Dieu. Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Moïse lui-même semble avoir été amené à ne pas savoir que faire, car l'Éternel lui demande « Que cries-tu à moi ?» Moïse avait pu dire au peuple « Tenez-vous là et voyez la délivrance de l'Éternel », tandis qu'il présentait à Dieu les requêtes de son âme en détresse, en criant à lui. Toutefois, il est inutile de crier lorsque nous devrions agir, tout comme il est inutile d'agir quand nous devrions attendre. Et cependant, nous faisons souvent ainsi. Les Israélites pouvaient bien se demander « Où devons-nous aller ?» Une insurmontable barrière semblait mettre un obstacle à tout mouvement en avant. Comment traverser la mer ? L'homme était incapable de résoudre ce problème, mais nous pouvons être assurés que Dieu ne donne jamais un commandement sans communiquer en même temps la capacité d'obéir. L'état réel du cœur peut être mis à l'épreuve par le commandement, mais celui qui est disposé à obéir reçoit d'en haut le pouvoir de le faire. L'homme auquel Christ commanda d'étendre sa main sèche aurait pu naturellement demander « Comment puis-je étendre une main sèche ?» Mais il ne fit aucune objection, car avec le commandement, et de la même source, vint le pouvoir pour obéir. Voir Luc 5, versets 23 et 24, Jean 5, versets 8, 9 et suivants. Dieu ouvre la voie à la foi. Ainsi aussi, pour Israël, avec le commandement de marcher, vint l'ouverture du chemin. Et toi, lève ta verge et étends ta main sur la mer et fends-la, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Verset 16. Voilà le chemin de la foi. La main de Dieu ouvre la voie pour que nous puissions y faire le premier pas, et la foi ne demande pas autre chose. Dieu ne donne jamais de direction pour deux pas à la fois. Il faut que nous fassions un pas. Puis nous recevrons de la lumière pour faire un autre pas. Et notre cœur sera gardé dans une dépendance continuelle de Dieu. Par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche. Hébreux 11, verset 29. On n'a pas besoin de foi pour commencer un voyage dont on voit le chemin dans toute son étendue. Mais il faut de la foi pour se mettre en route quand on ne voit que le premier pas. Tel était le chemin dans lequel les rachetés de l'Éternel s'avançaient sous sa conduite. Les eaux étaient pour eux un mur à leur droite et à leur gauche, et ils passèrent à sec. Verset 22. Les Égyptiens ne pouvaient pas marcher dans ce chemin-là. Ils y entrèrent parce qu'ils virent le chemin ouvert devant eux. Pour eux, c'était la vue et non la foi. Ce que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutis. Hébreux 11, verset 29. Quand on essaie de faire ce que la foi seule peut accomplir, on ne rencontre que défaite et confusion. Le chemin dans lequel Dieu appelle son peuple à marcher ne peut être suivi par l'homme naturel. La chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 50. Ils ne peuvent pas non plus marcher dans les voies de Dieu. La foi est le grand principe du royaume de Dieu, et elle seule nous rend capables de marcher dans les voies de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Dieu est hautement glorifié quand nous marchons avec lui les yeux bandés, pour ainsi dire, car c'est la preuve que nous avons plus de confiance dans sa vue que dans la nôtre. Si je sais que Dieu regarde pour moi, je puis bien fermer les yeux et cheminer tranquillement. L'Éternel entre les Égyptiens et Israël. Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et s'en alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et elle fut pour les uns une nuée et des ténèbres, et pour les autres elle éclairait la nuit. Et l'un n'approcha pas de l'autre de toute la nuit. Versets 19 et 20. L'Éternel se plaça exactement entre Israël et l'ennemi. Il fut leur protection. Avant que le Pharaon puisse toucher à un seul cheveu d'Israël, il aurait fallu qu'il traverse le Tout-Puissant lui-même. Dieu se place entre son peuple et ses ennemis, de sorte qu'aucun instrument formé contre lui ne réussira. Ésaïe 54, verset 17. Il s'est placé entre nous et nos péchés, et c'est notre privilège de le voir entre nous et toute personne ou chose qui pourrait être contre nous. Et ainsi, nous trouvons à la fois la paix du cœur et la paix de la conscience. Le croyant pourrait se mettre diligemment et anxieusement à la recherche de ses péchés, mais il ne les trouvera plus. Pourquoi? Parce que Dieu est entre lui et eux. Tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. Ésaïe 38, verset 17. Et en même temps, il a fait luire sur nous la lumière de sa face. De la même manière, le croyant peut chercher ses difficultés et ne les point trouver si Dieu est entre lui et elle. Si donc, au lieu de s'arrêter sur nos péchés et nos peines, notre œil pouvait s'arrêter sur Christ, plus d'une amertume serait adoucie, plus d'une heure obscure serait éclairée. Mais nous faisons sans cesse l'expérience que le plus grand nombre de nos épreuves et de nos chagrins se composent de mots anticipés et imaginaires qui n'existent que dans notre propre esprit incrédule. Puisse mon lecteur connaître la paix solide de la conscience et du cœur qui résulte de ce qu'on a Christ dans toute sa plénitude entre soi et tous ses péchés et toutes ses peines. Il est à la fois solennel et intéressant de remarquer le double aspect de la colonne dans ce chapitre. Elle était une nuée et des ténèbres pour les Égyptiens, mais pour Israël, elle éclairait la nuit. Quelle ressemblance avec la croix de notre Seigneur Jésus-Christ! Celle-ci a aussi un double aspect. Elle constitue le fondement de la paix du croyant et elle scelle en même temps la condamnation du monde. Le même sang qui purifie la conscience du croyant et lui donne une parfaite paix souille cette terre et en établit la culpabilité. Le même agneau, qui remplira de terreur tous les peuples de la terre par la grandeur de son courroux, conduira doucement de sa main dans les verts pâturages et le long des eaux paisibles le troupeau qu'il a racheté par son sang. Comparé Apocalypse 6, versets 15 à 17 et Apocalypse 7, versets 13 à 17. Les armées du Pharaon submergées. La fin de ce chapitre nous montre Israël triomphant sur le bord de la mer Rouge et les armées du Pharaon submergées dans ses eaux. L'événement prouva que la crainte des Israélites, aussi bien que les discours orgueilleux des Égyptiens, étaient dépourvus de fondement. Les eaux qui avaient servi de mur aux rachetés de l'Éternel servirent de tombeau au Pharaon. Ceux qui marchent par la foi trouvent un chemin pour y marcher, tandis que les autres y trouvent la mort. Le Pharaon agissait en opposition ouverte à la volonté de Dieu alors qu'il essaya de passer la mer Rouge, et il sera toujours vrai que ceux qui veulent imiter les actes de la foi seront confondus. Heureux ceux qui peuvent marcher par la foi. Ils suivent un sentier de bénédiction indicible, un sentier qui, bien qu'il puisse être marqué par des fautes et des infirmités, a néanmoins été commencé avec Dieu, se poursuit avec Dieu et se terminera avec lui. Signification typique. Nous ne quitterons pas cette riche portion du livre de l'Exode sans rappeler un passage dans lequel l'apôtre Paul fait allusion à la nuée et à la mer. Car je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, et que tous ils ont passé à travers la mer, et que tous ils ont été baptisés pour Moïse dans la nuée et dans la mer. 1 Corinthiens 10, versets 1 et 2. Ce passage renferme un enseignement profond pour le chrétien, car l'apôtre continue en disant « Or ces choses arrivèrent comme type de ce qui nous concerne. » Verset 6. Nous apprenons ainsi, d'autorité divine, à interpréter d'une manière typique le baptême d'Israël dans la nuée et dans la mer. Ce fut comme peuple baptisé de cette manière que les Israélites commencèrent leur pèlerinage à travers le désert, pour lequel l'Éternel avait fait provision de viande spirituelle et de breuvage spirituel. Ils étaient, dans un sens, un peuple mort à l'Égypte et à tout ce qui en faisait partie. La nuée et la mer étaient pour eux ce que sont pour nous la croix et la tombe de Christ. La nuée les mettait à l'abri de leurs ennemis, la mer les séparait de l'Égypte. Pareillement, la croix nous met à l'abri de tout ce qui pourrait être contre nous, et nous sommes placés de l'autre côté de la tombe de Jésus. C'est de ce point que nous commençons notre voyage à travers le désert, que nous commençons à goûter la manne céleste et à boire de l'eau qui découle du rocher spirituel, tandis que, peuple voyageur, nous cheminons vers cette terre du repos que Dieu nous a promise. J'ajouterai ici qu'il importe de comprendre la différence qu'il y a entre la mer Rouge et le Jourdain. L'un et l'autre de ces événements sont des types de la mort de Christ. Mais tandis que dans le premier nous voyons la séparation d'avec l'Égypte, Dans le second, nous voyons l'introduction dans la terre de Canaan. Les croyants ne sont pas seulement séparés de ce présent siècle mauvais par la croix de Christ, mais Dieu les a fait sortir vivifiés de la tombe de Christ, les a ressuscités ensemble et les a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus. Éphésiens 2, versets 6 et 7. Ainsi, bien qu'environnés des choses de l'Égypte, ils sont, quant à leur expérience actuelle, dans le désert, et en même temps ils sont portés, par l'énergie de leur foi, au lieu où Jésus est assis à la droite de Dieu. Le croyant n'a pas seulement reçu le pardon de tous ses péchés, mais il est, de fait, associé à un Christ ressuscité dans les cieux. Il n'est pas seulement sauvé par Christ, mais uni à lui, pour toujours. Lecteur, comprenez-vous ces choses? Les croyez-vous? Les réalisez-vous? En manifestez-vous la puissance? Elles sont vraies pour chacun des membres du corps de Christ, qu'il soit un œil, une oreille ou une main. La vérité de ces choses ne dépend pas de la manière dont nous les réalisons ou les comprenons, mais du précieux sang de Christ, qui a effacé tous nos péchés et posé le fondement de l'accomplissement de tous les conseils de Dieu à notre égard.